Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, 61 départements passeront en vigilance orange canicule demain avec des températures prévues entre 35 et 38 degrés, voire jusqu'à 41 degrés dans le sud-ouest selon Météo France. Au Moyen-Orient, le Hamas se prépare à dissoudre son administration qui gouverne la bande de Gaza depuis environ 20 ans, selon les responsables du mouvement palestinien. Et c'est un coup de théâtre dans l'affaire Jubilard. Après 5 ans de procédure, Cédric Jubilard a reconnu avoir tué son épouse Delphine au cours d'une énième dispute conjugale fin 2020 près de Toulouse. Plus de précisions dans notre édition. Dans l'actualité en France, tout d'abord, nous l'avons évoqué dans les titres, 61 départements passeront en vigilance orange canicule demain, avec des températures prévues entre 35 et 38 degrés, voire jusqu'à 41 degrés dans le sud-ouest, selon Météo France. Toujours pas fixé, l'incendie dans les Pyrénées-Orientales qui a entraîné l'évacuation de 10 000 personnes et chamboulé l'arrivée de l'étape du Tour de France a provoqué d'importants dégâts et les conditions météo compliquent la tâche des 750 pompiers à l'œuvre. Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est exprimé à ce sujet cet après-midi à l'Assemblée.
Des feux importants frappent le sud de la France. Près de 14 500 hectares ont déjà brûlé cette saison, soit près de 3 fois plus qu'à la même date l'an dernier. Je veux dire ici notre solidarité aux habitants évacués et remercier les sapeurs-pompiers, la sécurité civile, les forces de l'ordre, les élus locaux, les associations agréées et les moyens militaires engagés en appui. Le ministre de l'Intérieur est actuellement sur place à leur côté. L'État est mobilisé, y compris avec la solidarité européenne. La France a activé le mécanisme de protection civile de l'Union pour obtenir des renforts aériens. Mais la prévention compte aussi. Le débroussaillement obligatoire, les nouveaux moyens de la sécurité civile, le Beauvau de la sécurité civile et la transformation de nos armées doivent nous permettre de faire face à des saisons de feu plus précoces, plus longues, mais aussi plus violente.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu. En Algérie maintenant, l'abstention a atteint un niveau record lors des législatives du 2 juillet où le taux de participation s'est établi à 21,24%, le plus bas de l'histoire du pays selon des résultats officiels. Le Front de Libération Nationale, le FLN, le parti historique de l'indépendance et formation proche du pouvoir, a remporté 90 sièges et arrive en tête du scrutin. Au Maroc, 10 personnes dont un mineur soupçonné d'avoir prêté allégeance au groupe djihadiste État islamique au Sahel et d'être impliqué dans un projet terroriste ont été interpellés, selon le Bureau central d'investigation judiciaire. Direction le Moyen-Orient maintenant, au Liban. 4 personnes, dont 3 femmes, sont mortes dans une frappe israélienne dans le sud du pays, selon l'Agence nationale d'information. Et ceci malgré le cessez-le-feu en vigueur entre le Hezbollah pro-iranien et Israël. Et le président libanais Joseph Aoun a estimé que le maintien des troupes israéliennes dans le sud du pays empêchait l'armée libanaise de s'y déployer. Les deux pays se préparent à appliquer un accord cadre qui prévoit notamment un retrait israélien progressif. On reste au Moyen-Orient. Le Hamas se prépare à dissoudre son administration qui gouverne la bande de Gaza depuis environ 20 ans, selon les responsables du mouvement. Le comité technocratique palestinien, mis en place par le Conseil de paix créé par le président américain Donald Trump, s'est déclaré prêt à administrer l'enclave. En Iran, une marée humaine est descendue dans les rues de Téhéran pour saluer le cortège funèbre de l'ancien guide suprême Ali Khamenei au 3e jour d'obsèques nationales conçues comme une démonstration de force et d'unité pour le pouvoir. Et le président français Emmanuel Macron est attendu en Syrie. Une annonce hier de la présidence syrienne sans préciser la date de sa visite. Et il s'agit de la première visite d'un chef d'État d'une puissance occidentale depuis l'arrivée au pouvoir fin 2024 des nouvelles autorités de Damas. Dans le reste de l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, un chiffre, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 500 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Venezuela, le double tremblement de terre qui a dévasté le nord du pays le 24 juin a fait plus de 3000 morts selon un nouveau bilan hier des autorités qui ont commencé à faire enterrer des victimes non identifiées. En Ukraine, des bombardements russes ont fait au moins 18 morts à Kiev et dans sa région, moins d'une semaine après une précédente vague de frappes meurtrières sur la capitale ukrainienne et à la veille d'un sommet de l'OTAN en Turquie. Retour en France, et c'est un coup de théâtre dans l'affaire Jubilard après 5 ans de procédure. Cédric Jubilard a reconnu avoir tué son épouse Delphine au cours d'une énième dispute conjugale fin 2020 près de Toulouse. Dans un courrier à son avocat, des aveux de culpabilité marquent un changement de stratégie de défense 3 mois avant son procès en appel. Les explications avec vous, Clara Dubanchet.
Tout est à reprendre pour les avocats de la défense. Impossible que le procès en appel de Cédric Jubilard puisse avoir lieu en septembre. Mis en examen pour homicide volontaire il y a 5 ans, détenu en isolement depuis autant de temps et condamné à 30 ans de réclusion criminelle en octobre dernier, il continue de nier son implication dans la disparition de son épouse. Jusqu'à aujourd'hui. Tôt ce matin, le rebondissement tant attendu par les proches de Delphine finit par arriver. Dans une lettre manuscrite remise à son avocat, le peintre plaquiste reconnaît avoir tué Delphine Jubilard. Au-delà des aveux de culpabilité, il se dit prêt à indiquer l'endroit où il aurait dissimulé le corps afin de donner une sépulture à la mère de ses 2 enfants. L'avocat de Cédric Jubilard, maître Debuisson, explique le besoin de son client de pouvoir lever le voile sur cette nuit d'aurore.
Progressivement et assez rapidement, j'ai ressenti que celui-ci avait le besoin profond de parler. Il était verrouillé quelque part psychologiquement depuis le début, verrouillé probablement en raison de l'immense pression médiatique qui était exercée sur lui à travers cette affaire, qui est donc une des plus grandes affaires criminelles françaises de ces dernières années. Verrouillé aussi probablement en raison de formes de brutalité qu'il a évoquées, ou en tout cas de pression très forte de la part des enquêteurs. Mais ce qui est certain, c'est que depuis le début, il avait besoin et envie de parler. Donc moi, je me félicite aujourd'hui de ce résultat et de ce travail qui est une grande victoire pour la justice.
Maître Debuisson en conférence de presse ce midi. Il insiste sur la disposition de son client à collaborer avec la justice. Débloqué de l'engrenage de son mensonge, l'homme de 38 ans réserve les détails au magistrat. L'avocate d'une des parties civiles, Malika Chmani, se dit soulagée pour les enfants.
Merci beaucoup, Clara Dubanchet, pour toutes ces précisions. Les prisons françaises comptaient plus de 88 000 détenus au 1er juin. Un nouveau record dans un contexte de surpopulation carcérale chronique, selon le ministère de la Justice. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, alerte sur la situation et plaide pour une régulation carcérale.
C'est cette espèce d'abandon de l'État qui laisse à la dérive ses prisons et avec dedans, évidemment, les détenus. Tous, ils sont abandonnés par l'État carrément. On ne peut pas entasser des êtres humains, des poulets en batterie. Alors, je vais vous parler des conséquences d'abord les plus frappantes. Les rats qui courent partout, les odeurs. Par exemple, à la maison d'arrêt de Grenoble, on trouve des injections de rats dans la cuisine pour de la nourriture. À Fresnes, les rats ils font coucou comme si on était copains. Les détenus laissent la nourriture dans la cellule, ça attire les rats. La nuit, ils leur montent sur le ventre, sans parler des punaises de lit qui les dévorent. Dans énormément de prisons françaises, surpeuplées également, comme les cafards qui grouillent, c'est une vision d'enfer. Et on nous parle de construire de nouveaux établissements, mais c'est mentir, parce que ça prend des années et des années. Il n'y aurait pas le personnel pour les faire tourner. Donc on raconte des craques à la population pour soi-disant la rassurer. Et en fait, le résultat, c'est que plus personne ne croit le personnel politique. Ça, c'est une chose, ça m'est égal un peu. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on remédie au sort des prisonniers, parce que la prison, elle a une mission, oui, de punir, de mettre à l'écart. Ça, tout le monde est d'accord, c'est comme ça. On commet des actes, on est puni en conséquence, sanctionné en conséquence. Si ça doit être la prison, c'est la prison. Mais on n'est pas puni par des châtiments corporels, ça s'apparente à ça. On n'est pas puni par l'humiliation d'être à 3 par cellule, avec moins d'un mètre carré par personne pour se mouvoir, 22 heures sur 24 en cellule. Plus il y a de surpopulation, plus il y a une violence qui monte. On a relevé des augmentations de violence de plus 40% dans certains lieux. Il y a des détenus qui n'osent pas aller en promenade parce qu'ils ont trop peur. Il y a des détenus qui sont maltraités en cellule, violentés en cellule. Comment notre société peut tolérer des choses pareilles? Comment le personnel politique, qui est parfaitement au courant de cette situation, peut tolérer des choses pareilles? Il faut que ça s'arrête. il faut mettre en place des mécanismes qui fassent sortir des gens, comme on l'a fait au temps du Covid. Il y a eu beaucoup de détenus, quelques milliers, qui sont sortis quelques mois avant leur fin de peine. Je ne pense pas que ce soit dramatique de laisser sortir des gens sous contrôle des services pénitentiaires trois mois avant leur fin de peine. Non, je ne vois pas. Le drame, je le vois dans les drames qui sont à venir.
Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté sur la situation des prisons françaises. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.